Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Yves Desrichard de son invitation à cette journée donc sur le discours de l'Internet. Et donc je vais vous parler de Jacques Ellul et du bluff technologique. Alors le bluff technologique, c'est un livre qui est paru en 1988 et qui est le dernier état de la pensée de Jacques Ellul sur la technique. Auparavant, au début des années 50, dans un livre qui s'appelle « La technique ou l'enjeu du siècle », Jacques Ellul avait montré que la technique est un élément fondamental de structuration de la société, plus pour lui que l'économie, plus que le politique. C'est la technique, si vous voulez, dans la pensée ellulienne, c'est un peu l'économie dans la pensée marxiste, c'est-à-dire c'est vraiment l'élément central. Et il propose le terme de société technicienne pour caractériser une société dont la priorité est l'utilisation et la recherche du procédé toujours le plus efficace. En 1977, autre contribution, le système technicien. Et là, il montre que les sous-systèmes techniques s'assemblent entre eux, et donc ces techniques tendent à de plus en plus s'autonomiser et échapper au contrôle de l'homme. On arrive enfin donc en 1988, et donc le bluff technologique, c'est le discours tenu sur la technique. Bon, Ellul montre que technologique, c'est le discours sur la technique. Hein, il fait la différence entre technique et technologique. Bon, peu importe, le langage commun n'a pas retenu ceci. Mais donc, le bluff technologique, c'est le discours sur la technique. Et que dit ce discours ? Il dit que la technique va nous sauver, que c'est vraiment la planche de salut, que c'est grâce à elle que le progrès social sera obtenu. Alors vous voyez, il y a une sorte de crescendo dans la pensée d'Ellul. D'abord, la technique donc change complètement, bouleverse notre contexte. Ensuite, elle tend à prendre en gros un dynamisme propre. Et enfin, le discours sur elle prétend qu'elle est vraiment la planche de salut, et chaque fois on va mettre en avant donc les vertus de la technique. Alors, Ellul n'a pas connu Internet, il est décédé en 1994, mais il s'est toujours intéressé à l'informatique. En faisant au fur et à mesure de l'évolution du phénomène informatique, des évaluations différentes. Alors, dans la technique ou l'enjeu du siècle, en 1954, et je vous conseille de lire ça, c'est tout à fait étonnant, en conclusion, il annonce une technique au second degré, qui va être, donc il pointe l'informatique. On n'a pas encore le mot informatique, mais c'est absolument, en quelque sorte, l'informatique qui apparaît dans son discours, en conclusion de ce premier bouquin. Le système technicien, l'informatique, c'est en gros le lien des différents sous-systèmes techniques. C'est ce qui va permettre, effectivement, l'articulation de ces différents sous-systèmes. En 1982, Ellul publie « Changer de révolution ». Et là, sa pensée évolue un peu parce qu'il montre qu'avec la micro-informatique et avec un contexte social qu'il estime à ce moment-là tourner vers le changement, la micro-informatique pourrait être un moyen de changer radicalement la société, positivement. Et puis, justement, le bluff technologique, publié un peu plus tard, montre en quelque sorte sa désillusion. Les choses qu'il pouvait espérer ne se sont pas produites. Dans ce bouquin, d'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas que l'informatique, qu'il y a d'autres facteurs techniques qui seront certainement aussi importants. Et donc, il y a une sorte de désillusion. Je crois que le discours ou les analyses d'Ellul sont précieuses. parce qu'elles mettent en cause justement le côté unanimement optimiste des discours tenus, notamment sur Internet, comme tout à l'heure Yves Dirichard le signalait. Elles mettent en cause le discours, disons, le plus commun ou le plus courant, mais également les discours progressistes, qui, compte tenu de certaines modifications, estiment que les technologies d'information pourraient être un moyen de changement radical. Je crois que, attaquant d'entrée de jeu donc les discours dominants, l'accès aux analyses des bulles est difficile. Vous pouvez en faire l'expérience. C'est toujours pourquoi ? Parce qu'effectivement, on baigne d'idéologie et chaque lecteur. Et donc, vous lisez le bœuf technologique à l'époque où il est paru, ça vous défrise un peu. On peut estimer que Ellul est un peu ranchon, comme lui a reproché un de ses collègues, ou qu'Ellul écrit comme un journaliste, comme lui a reproché son ami Paul Ricoeur. Mais en fait, Ellul se bonifie avec le temps. Pourquoi ? Parce que finalement, les désillusions du progrès, les dégâts du progrès, nous les vivons au fur et à mesure. Et donc, je crois que c'est une œuvre à redécouvrir au fur et à mesure, et qu'elle est plus lisible au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et il faut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, donc il a toujours eu plus de succès aux États-Unis qu'en France, aux États-Unis, il y a une revue trimestrielle qui lui est consacrée, une revue universitaire trimestrielle. Presque tous ses livres sont en train d'être réédités. Des colloques lui sont consacrés. Bon, ça ne fait pas la une des médias, mais c'est une réalité. Et il y a un journaliste qui, en 2003, a écrit un bouquin sur lui qui s'appelle Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu. Alors, si vous voulez, on l'a vu, Jacques Ellul n'a pas connu Internet, et donc on a vu que sa pensée était mobile, dialectique, qu'elle prenait en compte l'évolution. Et pourtant, je vais essayer, dans le cadre de pensée qu'il a tracé, justement, de m'intéresser à Internet. Alors d'abord, on va voir l'idée d'ambivalence, qui, appliqué à Internet, fait que effectivement on voit des choses apparaître nouvelles. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, j'envisagerai l'idée de révolution. Ellul a écrit beaucoup de bouquins sur l'évolution, trois principaux notamment, et qui mettra en cause peut-être le discours de la révolution numérique ou d'autres discours faisant des techniques des objets potentiellement de changement profond. Alors d'abord, l'idée d'ambivalence, c'est une idée centrale. L'idée d'ambivalence est de dire, certes, la technique amène des progrès, il n'y a aucun problème dessus, mais en même temps, elle amène des inconvénients. Le progrès ne va pas sans inconvénients. Les bonnes choses ne vont pas sans des choses qui sont plus mauvaises. Donc à partir de cette idée, effectivement, Internet amène des choses tout à fait importantes et passionnantes et nouvelles, nous en sommes tous témoins, mais en même temps, il amène des désagréments. Et donc, vous voyez, cette idée appliquée à Internet fait voir le phénomène autrement, de façon, il me semble, beaucoup plus équilibrée. Alors, en fait, on pourrait dire que Internet, c'est un surcroît de liberté, mais c'est en même temps un surcroît de contrôle. Prenons d'abord la phase, disons, la plus agréable, celle du progrès, de tout ce que nous offre Internet qui n'existait pas avant lui. Je crois qu'Internet, c'est du prévisible et de l'inattendu. Dans le prévisible, il faut savoir que dès les années 70, Il y a eu beaucoup de rapports, notamment en France le rapport Noramec, qui montraient que pour sortir de la crise économique, pour aller vers une société socialement plus admise, etc., il fallait créer une société dite d'information. Et alors donc, et ça n'a fait que se développer depuis, puisque vous avez des sommets mondiaux organisés par l'ONU. Donc, mais c'est dès les années 70 que, en quelque sorte, on dit qu'un réseau informationnel, etc., permettrait donc la société de poursuivre la croissance économique et de sortir de la crise. Je crois que là, donc, on se retrouve devant une sorte d'empreinte libérale que l'on retrouve sur le discours de l'Internet, c'est-à-dire, en quelque sorte, un discours qui voit dans la technique un moyen autonome de transformation sociale. C'est-à-dire que la technique et Internet, ces réseaux, par eux-mêmes, de façon presque magique, vont apporter un surplus de communication, de participation, on va mieux soigner, on va mieux éduquer, etc. etc. Donc on connaît bien ce discours. Et je crois que là, justement, un Montpelliérain, Jean-Claude Michéa, a fait un bouquin qui me paraît très important sur la pensée libérale. En fait, la pensée libérale, montre Michéa, s'est toujours méfiée des finalités. Elle ne croit pas à ce que l'homme puisse poursuivre des finalités socialement valables. Il fait plutôt confiance à la main invisible du marché. Et notons qu'Internet et la société d'information se construisent par des entreprises privées. Et également donc au progrès amené par les machines et par les techniques. Et ça depuis donc sa naissance. Et là, on retrouve tout à fait ça lorsqu'on regarde cette empreinte libérale du discours de l'Internet. Mais à côté du prévu, il y a de l'imprévu. Et de l'imprévu, c'est le croisement de cette logique libérale avec une logique libertaire. Dans les années 90, des chercheurs totalement autonomes, des hackers, en quelque sorte, se préoccupent de changer le réseau à partir de valeurs tout autres que celles qu'on vient de voir. Ce sont donc les valeurs démocratiques, d'accès universel. Le mot d'ordre de ces chercheurs, c'est l'Internet pour tous, partout et en tout lieu. Et là, donc, l'histoire d'Internet a été plus ou moins faite. On peut retrouver ces différents acteurs. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, ces interventions se retrouvent dans leur œuvre. Internet est bien, en même temps, un outil au caractère démocratique, à l'accessibilité tout à fait considérable, etc., etc. Tout ce que dont nous pouvons bénéficier. Et donc, Internet a été approprié pour tout un chacun. On verra cet après-midi avec le web participatif, cette participation est tout à fait considérable. Et on s'aperçoit également, enfin je dis ça parce qu'on a mené une recherche par exemple, au moment de l'Erika, vous savez, la marée noire, et on avait un contrat montrant qu'est-ce qui se passait sur Internet. Et au moment de la marée noire de l'Erika, on s'est aperçu qu'il y avait de nouveaux acteurs informationnels qui étaient apparus. Des gens qui ont mis en cause l'expertise gouvernementale, et à juste titre, je ne vais pas raconter dans le détail, et donc c'est grâce à Internet, c'est-à-dire Internet permet en quelque sorte aux citoyens ordinaires d'intervenir, et donc ça c'était cette interactivité en quelque sorte est la grande novation et casse le côté unitarisme des médias de masse. Ça, c'est la phase éclairée. La technique, nous dit Ellul, est toujours ambivalente. Et, entre parenthèses, Ellul, quand on le lit, on croit qu'il est toujours pessimiste sur la technique, mais je crois qu'il n'a jamais dit que la technique ne pouvait pas amener de bonnes choses. Simplement, il est dans un contexte où on en dit tellement de bien qu'en fait, c'est presque une pas division du travail, mais donc lui, il s'intéresse à montrer qu'il y a également un aspect négatif. Et l'aspect négatif, effectivement, c'est donc le contrôle. Et on pourrait dire que Le revers de la société d'information, c'est la société de contrôle. Internet facilite la participation, mais en même temps, pirate, permet le piratage des données de l'utilisateur. Si vous voulez, l'utilisateur de tout support électronique ignore qu'il laisse des traces derrière lui. À qui appartiennent ces traces ? La question n'est jamais posée. Et ces traces, elles sont fortement stockées, traitées derrière nous et font l'objet d'un commerce qui fait que la gratuité dont nous bénéficions se paie d'un prix, c'est-à-dire la levée de tous nos secrets et de toute intimité. Prenons l'exemple de Google. On s'aperçoit que le discours libéral qu'on a eu tout à l'heure a plus ou moins réussi, puisque Google est actuellement, depuis 2007, l'entreprise au monde la plus connue. Ben, Google fiche 27 millions de Français. Et donc, dans ces 30 centres répartis à travers le monde, se préoccupent chaque jour de stocker, de triturer des milliards d'informations personnelles. Donc on assiste à une sorte de cartographie planétaire des identités par une puissance privée, et ce, indépendamment des lois informatiques et libertés, et indépendamment des commissions de contrôle. Et Google, je ne veux pas du tout le diaboliser, mais il est grand seigneur quand il nous dit eh ben, au bout de 9 mois, je vais effacer les informations. Mais pour lui, c'est de l'autorégulation, il ne se sent pas obligé. Et donc, il faut savoir, derrière, dans tout le commerce, enfin, toutes les informations qui sont revendues à des annonceurs, comme diraient les économistes, il y a un modèle économique extrêmement efficace dès lors que nous, consommateurs, ne nous mêlons pas de ce qui pourrait nous regarder. Alors, ce qui est étonnant, vous savez, il y a 2 jours, il y a 2 fichiers qui ont rempli le fichier Edwige, un fichier policier. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une émotion publique qui se manifeste. On parlait de 1984. Là, on se dit, on est fiché, etc. Et on s'aperçoit que sur les réseaux, eh bien, notamment les réseaux sociaux, et notamment la jeune génération, se dévoile et donc oublie que ces données peuvent être vendues, peuvent être aux mains d'un recruteur. Et chacun peut-être oublie que dans certains cas, le fournisseur d'accès doit garder pendant 1 an nos données de connexion et la police peut y avoir accès. Donc voilà ce côté sombre, il y en a certainement d'autres, mais celui-là me paraît central. À la limite, vous voyez, un réseau comme ça, sans faire payer les gens, eh bien, il y a un tel bénéfice par ce contrôle qu'on peut le laisser gratuit à tout le monde. Alors, maintenant, je vais aborder le deuxième point, à partir donc de l'idée de révolution que défend Élu. Et donc, cette idée de révolution d'Élu va mettre en cause l'idée révolutionnaire défendue par les tenants de la révolution numérique, ou par les tenants, ou par des discours progressistes. Par exemple, de la théorie des multitudes. Par exemple, le capitalisme cognitif. Des théories qui, en gros, disent, bon, effectivement, Internet aujourd'hui, c'est au moins des puissances, mais finalement, Internet, c'est dans le sens de l'histoire, il s'agit de changer les rapports de force, les rapports de domination. Et Internet sera vraiment l'outil central de la révolution future. Vous voyez, on retrouve la thèse centrale marxiste qui, en quelque sorte, considère que les moyens de communication ou la technique en général est neutre. Il s'agit de se l'approprier, d'en faire une appropriation démocratique qui bénéficie au plus grand nombre. Ellul a toujours pris au sérieux la pensée marxiste. Et Ellul, vous savez, ses deux inspirations, c'est la Bible et Marx. mais a toujours combattu violemment, et notamment dans ses bouquins sur la Révolution, c'est des bouquins extrêmement fouillés, hein, qui analysent les phénomènes, justement. Lui, il estime qu'une révolution, c'est pas ça. Une révolution, c'est jamais prévisible, c'est pas dans le sens de l'histoire. Une révolution, c'est un acte de liberté d'une société, et c'est toujours improbable. Alors, si vous voulez, à partir de l'idée de changement radical porté par Ellul, de révolution, je vais reprendre trois de ces problématiques que je vais appliquer à Internet. La problématique de la technique appropriée, la problématique de la relation fin-moyen, et enfin la problématique des limites. Alors d'abord, la première problématique, c'est de considérer donc que la technique n'est pas neutre et que tout ne dépend pas de l'utilisateur, ce qui est l'idée commune. Hein. Un couteau, ça peut être un objet, ça peut être un moyen de faire un crime ou de couper le pain. Bon, mais cette idée pour Ellul, pour les technologies, pour les techniques sophistiquées, est fausse. Ce qui veut dire que on doit refuser de recourir à certaines techniques qui portent une logique qui ne va pas dans le sens où on veut aller. L'histoire est surabondante des gens qui ont refusé les techniques. Elle n'est pas faite, puisque l'histoire, c'est en général l'histoire des vainqueurs. Et personnellement, donc, j'ai encadré une thèse sur le non-usage d'Internet. La thèse est publiée, c'est une bonne thèse, qui montre qu'il y a des personnes, alors c'est pas du tout la facture numérique pour le coup, hein, des personnes intellectuellement, financièrement, etc., qui refusent Internet pour des raisons diverses. D'abord, premièrement, il y en a qui disent « je préfère notre support », qui a plus de portée réflexive, « je ne veux pas de fichier », Internet est aux mains des Américains, etc., etc. Donc, c'est une petite minorité, hein, mais c'est intéressant dans la mesure où, vous voyez, il y a cette sensibilité, c'est pas neutre, dès lors que vous en servez, vous dépendez de la logique de l'outil. Alors finalement, on retrouve donc dans la notion de technique appropriée une idée voisine. Mais les gens de la nouvelle génération n'ont pas connu ça. Ivan Illich, qui à l'époque défendait l'outil convivial. Et l'outil convivial, c'est très près de la, d'ailleurs, Illich, lors d'un colloque sur Ellul, a montré que Ellul était, c'était son inspirateur, quoi. Et donc, dans la notion de technologie douce, donc, effectivement, il y a des technologies qui doivent être rejetées. Par exemple, Ellul, au moment de la grosse informatique, donc rejeter tout ça. Par contre, quand la micro-informatique est apparue, on l'a vu tout à l'heure, il l'a évalué très positivement, parce que pour lui, c'était un possible outil de décentralisation, un possible outil de coordination entre les petits groupes, qui pouvait permettre donc une plus grande facilité pour donc prendre des décisions en commun. Alors, Internet là-dedans, est-ce que c'est un outil donc approprié par rapport à son caractère démocratique, à son accessibilité, on l'a vu? Moi, je répondrai non, à cause de la centralisation personnelle des données par des puissances privées. Donc pour moi, pour faire que Internet soit un outil approprié, la première chose à faire serait d'élaborer une charte mondiale informatique et liberté qui protégerait la vie privée de toutes les parties du monde en garantissant à tout internaute l'accès à son double numérique avec la possibilité d'en effacer les parties s'il le souhaite. Je crois également, et dernièrement, dans un colloque, j'ai rencontré un promoteur au ministère de l'Internet des objets, parce que figurez-vous que, comme vous savez, on est société d'innovation, une innovation chasse l'autre, on va nous, très rapidement, il va y avoir un Internet des objets. Et si vous voulez, cet Internet, les premières études ont été financées par les entreprises de distribution. Nous, en tant que consommateurs, peut-être, on aurait notre mot à dire. Mais remarquez bien, on ne nous le demande pas. Et je crois que donc une technologie appropriée, une technologie douce, c'est peut-être, il faut intervenir en amont, avant que la technologie soit imposée, etc. Et donc là, par exemple, cet Internet des objets, c'est un excellent exemple, parce que ça se concocte dans des cercles technocratiques, etc., où on ne nous demande pas notre avis, jamais. Donc ça, c'était la problématique de l'outil approprié. La deuxième problématique, donc, c'est la problématique des fins moyens, des fins et des moyens. Pour Ellul, une technique orientée vers la puissance est toujours un obstacle pour un véritable changement de société. Mais une technique appropriée, c'est une condition absolument fondamentale, mais ce n'est pas suffisant. Le plus important, ce sont les finalités. Ça, c'est une idée extrêmement importante. La société technicienne fait passer le moyen avant les fins. C'est une de ses définitions. Donc, il faut faire passer les finalités et puis après s'intéresser aux moyens. C'est pour ça que pour Ellul, le contexte politique et social est fondamental. Et si, en 82, il écrit « Changer de révolution », et à cette époque-là, d'ailleurs, j'ai une correspondance avec lui, parce qu'il me disait « Ben, les gens qui ont lu mes bouquins avant, ils croient que j'ai trahi, ou du moins que j'ai changé de... » Non, il me dit, enfin, il se justifie en disant « Non, à ce moment-là, j'ai estimé qu'il y avait une mobilité, une possibilité, et que cette possibilité a duré peut-être quelques mois, quelques années, et elle est partie. » Voilà. Mais donc, il fallait, en quelque sorte, une volonté, en gros, politique d'autogestion, de retour à des formes d'organisation donnant la parole à la base, etc., etc. Alors, si vous voulez, pour vous donner une idée de la radicalité du changement révolutionnaire vu par Ellul, que pourraient faciliter les techniques, et notamment Internet, ça serait, il envoie cinq propositions pour la révolution nécessaire qu'il appelle de ses voeux. Premièrement, je vous dis ça parce que c'est peut-être utopique, mais ça donne quand même la portée des finalités qu'on pourrait mettre en avant. Une aide totalement désintéressée aux pays du Sud grâce à une reconversion de la puissance industrielle occidentale. Le choix de la non-puissance en privilégiant le moyen le plus humain et le plus respectueux de la nature par rapport au moyen le plus efficace. L'éclatement et la diversification dans tous les domaines avec une préférence pour l'autogestion. Et enfin, non pas encore, la réduction drastique du temps de travail et enfin la sortie du salariat grâce à de nouvelles modalités de répartition de la richesse. Vous voyez, c'est pas rien. C'est pas rien. Et d'ailleurs, entre parenthèses, parfois, il y a quand même des mesures là où ça avançait un peu. Hein. À l'époque, le RMI n'existait pas, par exemple, ou les 35 heures, même si elles sont remises en cause, etc. Enfin, voilà. Et alors, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est qu'on a des moyens formidables. On pourrait peut-être faire... aucune société a eu ces moyens. Donc, un projet révolutionnaire, une révolution à inventer, du moins de radicale, hein, comme on peut le voir, serait possible... Mais en fait, comme dit Ellul, peut-être, plus la société est technicienne, et plus elle rend la révolution impossible. Alors, j'en viens au dernier point, donc les limites. Alors, pour Ellul, la maîtrise de la technique exige la détermination des limites. En d'autres termes, on ne doit pas faire tout ce qui est techniquement possible de faire. Donc, on peut constater historiquement que cette capacité d'autolimitation de la société occidentale, depuis quelques siècles certainement, est inexistante. Et qui finalement, on est rappelé à l'ordre, si je puis dire, par des contraintes externes. Réchauffement climatique, pollution de toute nature, etc. Par rapport à cette problématique... Je crois qu'on peut dire que les technologies numériques ou Internet peuvent être épargnées dans la mesure où ils sont économes d'énergie. Au contraire, ils pourraient, dans cette économie verte qu'on appelle de nos voeux, pourraient avoir un rôle utile. qui prétendent, mais je pense, ils ont pas nécessairement raison, qui prétendent malgré tout que, par exemple, dans certains pays, les infrastructures numériques consomment déjà plus de 10% de l'électricité. Donc, c'est pas un avis unanimement partagé, cette affaire de technologie informatique ou numérique non polluante. Le mouvement de décroissance, donc, choisit délibérément la voie de l'autolimitation. Donc, il s'attaque à un imaginaire trop exclusivement économique et à la notion de progrès. En ce sens, Ellul a été un inspirateur, en fait, de ce mouvement. Par exemple, Latouche, dans un de ses bouquins, justement, rend hommage à Ellul sur ce point. Est-ce que cette problématique peut s'appliquer à Internet et à nos technologies d'information? J'en suis pas sûr. Pas du tout sûr, même. Pourquoi? Parce qu'on voit mal pourquoi on fixerait des limites à des techniques qui offrent de nouveaux espaces d'expression et qui, en quelque sorte, permettent de nouvelles relations. Le succès des réseaux sociaux semble effectivement montrer que la crise est là et que tout moyen pour recoudre les liens, etc., ne doivent pas être écartés. Cependant, on pourrait dire qu'il faut quand même que Internet ne soit pas le tout de l'information et de la communication. Si les conséquences de son utilisation sur nos perceptions, sur nos représentations, sur les processus cognitifs sont difficilement évaluables, on le verra peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, comme au moment de l'écrit, par exemple, enfin, il est clair qu'elles ne sont pas toujours positives. Et dans ces conditions, je crois qu'un droit à la déconnexion est toujours le bienvenu, comme me paraît intéressant l'initiative de certaines écoles de priver d'écran et de télévision pendant une semaine, une dizaine de jours, les natifs du numérique. Je vous remercie.